Bonjour à tous, Monseigneur Marcaillet, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver après cette longue période de confinement. Nous voici de retour sur les ondes de Radio Lapourdie et de Radio Présence avec à mes côtés Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous allons aborder aujourd'hui différents thèmes concernant cette période particulière, bien sûr, et puis aussi la suite dans l'actualité nationale et puis celle de notre diocèse. Alors déjà, Monseigneur Aguerre, vous avez vécu comme nous tous cette période de confinement. Comment est-ce que vous l'avez vécu vous-même personnellement ?
Moi, j'ai commencé très fort parce que quand je suis rentré de Rome, où nous étions en visite ad limina et où le virus sévissait un peu plus et en avant de chez nous, la ville était complètement verrouillée, les relations, les communications aériennes commençaient à être diminuées et supprimées. Et quand je suis rentré de cette visite ad limina, nous étions 30 évêques français, que nous avons pu quand même, vaille que vaille, jour après jour mener, eh bien, nous avons appris que l'un d'entre nous avait été dépisté positif. Et donc, on nous a recommandé de rester en quatorzaine très stricte dès que nous sommes rentrés. Donc, en gros,
doublement confiné.
J'étais doublement confiné, voilà. Mais je suis confiné quand même. J'étais confiné dans l'évêché. Et on ne peut pas dire que ce soit un endroit exigu et difficile à vivre.
Vous avez pu dire votre messe tous les jours
Tous les jours, j'ai pu suivre la messe. Alors après, ben, j'ai essayé de m'organiser. Donc, j'ai d'abord cherché à rester en contact avec les prêtres, hein, que j'ai appelés régulièrement, surtout ceux qui étaient les plus isolés, hein, ceux qui étaient moins en équipe ou en communauté. Et puis ensuite, j'ai essayé de leur écrire des lettres pour les inviter à un certain nombre de choses qui, d'ailleurs, ont été faits de manière assez créative et inventive, de manière assez géniale pour beaucoup. Et même pas géniale, mais en tout cas, les prêtres ont toujours tenu à rester en contact avec leurs fidèles, par téléphone, chacun par ses moyens et aussi à ses aptitudes aux technologies modernes. Et puis moi, j'ai aussi célébré la messe tous les jours dans l'oratoire de l'évêché pendant plus de 40 jours, hein, en direct, grâce à la page Facebook du diocèse. Donc ça a été une belle expérience parce que ça m'a obligé à faire une catéchèse suivie d'ailleurs, hein, c'était pendant le temps du carême, le temps pascal, qui sont des temps forts aussi de la liturgie, et je me suis rendu compte que ça correspondait aussi à des attentes, pas seulement la messe que j'ai célébrée, mais j'étais très édifié aussi par le fait que beaucoup de fidèles, dans notre diocèse, en France et dans le monde entier, ont pu suivre la messe du Saint-Père à 7 heures tous les matins, qui était retransmise par KTO. Et donc là aussi, il y a eu un suivi. Et puis, je pense que c'est une manière aussi pour les fidèles de découvrir le pape, leur évêque aussi, ou leur prêtre, d'une autre manière. Hein. Et je vois d'ailleurs que ça a été très fréquenté. Je voyais même moi sur ma page Facebook que des fidèles qui certainement ne vont pas à la messe toutes les semaines quand ils sont pris par leur travail, leurs allées et venues, leurs déplacements, eh bien là étaient assidus chaque jour à participer à la messe. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Est-ce qu'on peut dire que jamais les chrétiens n'avaient vécu une telle semaine sainte, puisqu'ils n'ont pas pu participer aux offices, sauf par les médias ou par les réseaux sociaux?
Alors, je ne dirais pas jamais, parce qu'il y a d'autres périodes de l'histoire, mais en tout cas récentes, sûrement jamais.
Hein,
mais
depuis la Révolution française, en tout cas.
Sans doute. Mais il y a eu des cas d'épidémie, parfois plus localisés, où on a aussi dû interdire la participation aux offices. Il y a même une période dans l'histoire de la France, qui n'est pas glorieuse, où le pape lui-même a jeté l'interdit sur le royaume. C'était au temps du roi Philippe Auguste. Et c'est le pape lui-même qui a jeté l'interdit pour des frasques du roi ou pour des exactions du roi. Et c'est donc le peuple des fidèles, qui était beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, à pratiquer, qui a été sanctionné. Il y avait interdiction de voir la messe, interdiction d'avoir des obsèques chrétiennes, enfin, etc. Donc il y avait quand même il y a eu des périodes où le temps pascal ou la semaine sainte n'a pas été célébrée non plus. Et puis c'est vrai qu'il y a des pays où les prêtres manquent, comme on le sait en Amazonie ou ailleurs, où il y a des temps de persécution, où les gens n'ont pas pu aussi, à certains moments et à certaines périodes, participer à la messe, même pendant la semaine sainte.
Enfin, pour nous, c'était quand même inédit. Est-ce que ce jeûne eucharistique n'a pas été finalement l'occasion pour nous tous de redécouvrir le vrai sens de l'Eucharistie ?
Moi, je pense que on ne le voulait pas, et c'est évident que je dirais que le Seigneur est capable de tirer du bien du mal, hein, toujours. Et c'est vrai que l'effet positif de ce jeûne eucharistique ou cette privation des sacrements, qui n'est pas un bien dans l'absolu, a pu aussi creuser la faim eucharistique chez beaucoup de fidèles et a pu aider beaucoup de fidèles qui pouvaient s'habituer de manière un peu confortable à leur eucharistie dominicale, a pu les aider à redécouvrir en effet que l'eucharistie, c'est pas n'importe quoi, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, et ça suppose un vrai engagement, une vraie implication, pas seulement dans l'ordre de la piété et de la dévotion, mais dans l'ordre de la conformité de la vie au mystère de la foi, comme l'on célèbre, et en particulier en direction des autres.
Alors, durant ce confinement, on a parlé de cloches. Dans certains villages du Béarn, la mairie souhaitait faire sonner les cloches des églises pour remercier les soignants à 20h, comme on faisait, on applaudissait dans toute la France. Alors, ça n'a pas toujours plu au curé. Alors, selon vous, est-ce que la sonnerie des cloches doit rester dans le domaine du culte ou est-ce qu'elles peuvent être utilisées par les autorités
civiles ?
Alors,
vous rappelez bien que le contexte n'est pas tout à fait celui que vous dites. Ce n'est pas seulement que les maires souhaitaient sonner les cloches, faire sonner cloche, c'était qu'ils ont pris l'initiative de le faire sans référence au curé. Alors, donc, ça, c'est quand même très important qu'il y ait une loi en France, et la loi est toujours valable. Hein. Je ne prendrai pas, certes, ce genre de formule qu'on a entendu récemment, que l'émotion est au-dessus des règles juridiques. Il y a un protocole qui est défini par la loi, hein, la Constitution française, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui prévoit que l'usage des cloches, sauf les usages civils, c'est-à-dire l'horloge essentiellement, ou le tocsin éventuellement, appartient au seul affectataire. Et c'est très important de le préciser. Je crois qu'il y a eu, dans cette affaire, il y a eu des maladresses de part et d'autre. Donc, tout le monde est capable de le reconnaître. Mais au départ, il faut quand même voir que c'est un maire qui décide de son propre chef d'utiliser les cloches. C'est comme un maire qui utiliserait l'église à des fins culturelles sans
avoir... Le curé.
Alors, même si c'est l'émotion, mais l'émotion ne commande pas tout. Et je pense qu'on l'a bien vu d'ailleurs à la suite. Bon, ça a créé un imbroglio dont on n'avait pas besoin, c'est vrai.
Ça nous a fait penser quand même un peu à Don Camillo.
Mais oui, c'est ça. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs au journaliste qui m'avait interrogé. J'ai dit, c'est Pépone et Don Camillo. Bon, c'est pas mal, ça met un peu d'humour. Mais ça a pas été, ça a été plutôt grinçant que humoristique pour certains.
Vous avez mis en place un service d'écoute diocésain pendant le confinement pour toutes les personnes qui en auraient eu besoin. Est-ce que c'était vraiment une nécessité ? Est-ce que vous avez eu des retours ?
Alors c'était parti en tout cas du constat que certains prêtres me disaient qu'il y avait des fidèles qui étaient quand même très traumatisés par ce confinement, très angoissés aussi à force d'être devant leur petit écran, surtout sur les chaînes d'information continue, il y avait de quoi être terrorisé. Hein, et je crois que là il y a eu aussi quand même une entreprise de terrorisation des gens qui était au-delà du raisonnable. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être pas mal de gens angoissés, j'ai même vu des prêtres qui étaient passés par des crises d'angoisse pendant ce temps du confinement. Donc on s'était dit, peut-être on pourrait mettre en place un service d'écoute avec des écoutants qualifiés par l'intermédiaire de Cotopaïs en particulier, hein, vous savez,
le centre spirituel
jésuite. Voilà, hein. Et puis les accueils Louis et Zélie, etc., qui ont l'habitude d'écouter des gens en détresse. Et donc, il y a toute une petite équipe qui s'est formée autour de Claire Callin, à qui j'avais confié cette mission. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, parce qu'ils ont été très disponibles tous les soirs, de 18 à 21h. Donc, il y avait un numéro de téléphone, une ligne directe qui sert d'habitude à SOS Amitié à l'évêché. C'est moi qui transférais les appels sur le numéro de l'écoutant du jour. Et finalement, on l'a fait jusqu'à la sortie du confinement. Alors, dire que ça a été efficace autant qu'on aurait pensé, c'est-à-dire qu'on aurait été submergé d'appels, non. Il y avait d'ailleurs un numéro vert au niveau national de l'Église catholique qui, lui, a, je crois, beaucoup fonctionné et s'était mis en place avant. On s'était dit que ça permettait de désengorger. Est-ce que ça a été assez communiqué ? Je n'en sais rien. En tout cas, je salue la disponibilité, la générosité de tous ceux qui étaient de permanence, chaque soir entre 18h et 21h. Et même s'il y a eu une, deux personnes qui ont téléphoné régulièrement, comme disait Saint François de Sales, une âme vaut un diocèse. Et donc je me dis, c'est tout bénéfice.
Alors, durant ce confinement, on a eu le décès de plusieurs prêtres du diocèse, des personnalités. Alors, on peut peut-être juste les citer pour leur
oui,
hommage.
Oui, ben, d'abord, il y a le premier, c'est l'abbé Robert Mindy-Buru, hein, qui avait 90 ans, mais qui était surtout sous le coup d'une longue maladie qui avait récidivé quelques mois auparavant. Et donc, ça a été finalement assez rapide. Hein, il est alors donc dans des conditions, comme vous le savez, qui étaient un peu tristes, parce que bon, des prêtres qui ont quand même été des personnalités marquantes, comme l'abbé Robert Mindy-Buru. Moi, quand je suis arrivé, il était déjà prêtre auxiliaire, mais il était dans l'équipe du CIFAC, hein, comme prêtre accompagnateur. Et c'est vrai que ben, les obsèques ont été faites dans une grande intimité. J'ai quand même décidé de le faire dans l'église, même si c'était pas de règle à ce moment-là, de sa petite église de son village natal, hein, de Saint-Martin-d'Arbérou. Et donc c'était un petit peu, voilà, un peu dommage que ça se passe comme ça, mais il a quand même reçu pas mal d'hommages ensuite dans la presse. Jean Poisson-Pesse, qui est une belle personnalité sacerdotale, un prêtre qui est mort comme un saint, avec des souffrances quand même assez atroces, puisque son cancer avait récidivé il y a quelques mois, et là c'était une invasion de sa tumeur dans la cavité buccale. Il ne pouvait plus parler, plus manger, plus s'alimenter, mais il ne s'est jamais plaint. Il a souffert, resté conscient jusqu'au bout, célébrait la messe tous les jours. Et quand l'abbé Jacques de Mesmer est allé lui donner la communion, une toute petite parcelle, parce qu'il aurait été incapable de le faire, il était crispé par sa douleur. Et quand il a reçu la communion, l'avant-veille de sa mort, eh bien, Jacques me dit qu'il a eu un visage irradié, souriant, et jusqu'au bout, il a servi la messe. Donc d'ailleurs, c'est un prêtre pour lequel je reçois aujourd'hui des lettres de condoléances qui viennent du monde entier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans sa paroisse par total. Hein, il était curé de Sainte-Thérèse pendant 25 ans à Pau. Et il est resté en contact avec beaucoup de gens dont il a marié les enfants, baptisé les petits-enfants, etc. Et je reçois encore aujourd'hui des témoignages. C'est vraiment un prêtre, une belle figure de prêtre. Pierre Andiasabal, le chanoine Andiasabal, qui a beaucoup marqué aussi par le travail titanesque qu'il a fait pour les traductions en basque du Missel. Hein, et donc ça, c'était une grande figure du diocèse, qui s'en est allé paisiblement. Jean Etcheverry, à sa manière aussi, un homme haut en couleur, au verbe haut, un berger dans l'âme, hein, qu'il était à tous les sens du mot d'ailleurs, et qui était au milieu de son troupeau. Il est resté 34 ans, curé, parce que les gens l'appelaient toujours Monsieur le curé, même si le curé était maintenant baïgorique depuis quelques années, mais des Aldunes, hein, et c'est quand même une belle personnalité aussi qui s'en est allée jusqu'au bout. Il ne voulait pas aller en maison de retraite. Bon, il est hospitalisé pour un problème de santé, il avait quand même rempli son dossier pour entrer à Arditeia, puis finalement le bon Dieu l'a pris au mot, et il l'a emmené à 92 ans quand même. Hein, donc
c'est... Un journaliste qui lui demandait si la contrebande était un péché, il répondait que c'était un péché si on était pris.
Oui, c'est ça. Bon, et puis l'abbé Lacombe, hein, qui est parti comme il a vécu, c'est-à-dire discrètement. Il était rentré depuis un an et demi à Arditeia. Il était, lui, confiné depuis quelques années à l'Argentée. Bon, il avait été curé, bien sûr, sur la côte basque, à Biarritz en particulier, mais il avait été économe diocésain, le dernier prêtre économe diocésain du diocèse, et puis chancelier quand je suis arrivé. Donc c'est aussi des personnalités qui ont marqué la vie du diocèse.
Nous nous retrouvons dans quelques instants, nous parlerons encore du confinement, mais cette fois-ci au niveau national. Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillé. Alors ce confinement, il a posé plein de questions dans l'Église, mais aussi dans la société française. Alors commençons peut-être par dire que finalement le culte a repris un peu parce que des gens se sont mobilisés pour qu'il reprenne, on va dire ça comme ça.
C'est un petit peu vrai, oui. C'est-à-dire que, vous savez que la liberté du culte, qu'on appelle la liberté socio-civique des cultes, qui appartient à ce droit fondamental à la liberté religieuse, hein, qui est, comme on le sait, reconnue par notre Constitution, n'a pas été mise à mal, on peut dire, dans la première partie du confinement, dans la mesure où nous avons nous-mêmes pris des dispositions pour participer à un effort de solidarité nationale et évitant les rassemblements, donc suspendant toutes les célébrations et cérémonies à l'Église, pour ne pas participer à cette propagation du virus, en particulier en direction des personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Donc nous avons participé nous-mêmes, avant même qu'on nous interdise, si je puis dire, tout rassemblement et toute cérémonie à l'église. Bon, le bien commun est à l'initiative de l'État. Et la santé fait partie des conditions qui définissent le bien commun, c'est-à-dire que ce bien que nous cherchons tous en commun et dont tous participent. Sans doute qu'on peut discuter, et je crois qu'aujourd'hui, les responsables politiques et sanitaires sont entendus hein, par des commissions parlementaires pour faire une enquête aussi sur le bien fondé des décisions politiques qui ont été prises, d'ailleurs qui ont été un peu en yo-yo, si je puis dire. Bon. Mais ceci dit, on était dans une telle situation d'imprévoyance, il faut quand même le reconnaître, des gouvernements successifs depuis 15 ou 20 ans, d'incurie aussi dans le domaine de la santé, hein, des budgets de santé qui ont été rabotés au fur et à mesure, des lits de réanimation qui ont été supprimés pour budgétiser, comme disent aujourd'hui beaucoup de personnels de santé, des structures administratives extrêmement lourdes dans les hôpitaux et qui correspond bien d'ailleurs au mal français, on pourrait dire, que n'ayant pas de masque prévu, n'ayant pas de dépistage possible de la population, la seule solution, c'était de confiner. Alors que s'il y avait eu tout ça, le confinement n'aurait pas été aussi généralisé, c'est évident. Hein. Après, il y a peut-être d'autres raisons, mais moi je ne suis pas dans le complotisme, donc je ne m'y aventure pas, mais il y a peut-être d'autres raisons moins avouables, mais bon, qui sont toujours un petit peu dans la logique du marché, et donc de la mentalité mercantile quand même, qui domine largement nos sociétés occidentales. Voilà. Donc à ce moment-là, nous, on a participé à l'effort de solidarité. On nous dit ce sont les interactions sociales qui sont le principal facteur de propagation du virus. Donc il faut éviter le plus possible ces interactions. Et donc on a décidé, nous aussi, de suspendre les activités. Bon, puis le confinement a duré un peu plus longtemps que tout le monde l'attendait. Et puis quand on sort du déconfinement, je ne sais plus exactement quand
c'est
le 11 mai, on voit qu'un certain nombre de secteurs de la vie sociale reprennent leurs droits avec des mesures barrières, des gestes barrières, des mesures de distanciation sociale évidentes, comme les transports en commun, les commerces, même les petits musées. Donc on se dit, pourquoi par un article lapidaire du décret du 11 mai précisément, il est stipulé que les cérémonies et célébrations dans nos lieux de culte demeurent interdits. Quand je dis dans nos lieux de culte, ce n'est pas seulement les catholiques, hein, c'est toutes les religions. Parce que le droit à la liberté religieuse ne concerne pas seulement les catholiques, mais concerne toutes les religions. Moi, j'ai fait partie de ceux, mais je pense que tout le monde y en a été inquiet au niveau de la conférence épiscopale, de dire, attendez, là, du coup, il peut y avoir une atteinte à la liberté de culte. Parce que les limites de l'ordre public qui pouvaient se concevoir lorsque tout le monde était confiné jusqu'au 11 mai, en effet, pouvaient limiter, précisément, l'exercice de la liberté religieuse. Mais dès lors que une bonne partie des secteurs de vie sociale sont déconfinés, ces limites n'étaient plus recevables. Et donc, il pouvait y avoir une atteinte à la liberté de culte. Et je l'ai souligné tout de suite, moi, dans un communiqué après la rencontre du Conseil permanent de la Conférence évêque de France, qui s'est ému, précisément, de ce deux poids, deux mesures, si je puis dire.
Pourquoi la Conférence des évêques n'a pas porté le recours auprès du Conseil d'État pour que ce soit des associations qui l'ont fait?
Alors, c'est un choix.
Vous regrettez ce choix, vous?
Personnellement, oui, mais après, je me range. Hein, j'ai pas de. Personnellement, j'ai fait savoir, comme d'autres d'ailleurs, auprès du président de la Conférence des évêques de France, pour tout vous dire, que je pense que c'était une voie légale qui m'avait été d'ailleurs conseillée par un conseiller d'État et un avocat du Conseil d'État qui m'avait approché, mais pas tout seul, d'autres évêques. J'étais avec aussi d'autres évêques dans la même option, en disant ce serait peut-être l'occasion de vérifier la conformité à la liberté de culte de ce décret. Et c'était tout à fait... c'est une démarche citoyenne qui est une demande faite au Conseil d'État, qui est la plus haute instance administrative de notre pays, et qui n'est pas forcément incompatible avec un dialogue serré et sérieux qui était mené par la Conférence évêque de France avec les autorités de l'État. Bon, le choix a été fait de ne pas le faire. Moi, j'aurais pu être en justice en tant que président de l'association diocésaine, mais moi, je participe à un corps épiscopal, et donc il est évident qu'à partir du moment où le président de la Conférence des évêques de France, interpellé sur cette question, dit ben, « on va essayer d'autres recours et on va essayer d'autres moyens, notre dialogue qui demeure courtois avec le gouvernement », eh bien, je me suis aligné. Mais j'étais assez content que d'autres initiatives privées, même si elles viennent parfois de communautés ecclésiadéiques qui sont un peu en marge de la vie de notre diocèse, eh bien, aient pu faire valoir ce droit et que le Conseil d'État a non seulement jugé recevable, mais il a retoqué le gouvernement et il lui a enjoint de modifier son décret. Donc je trouve que c'est... Et finalement, qu'est-ce qui a obtenu une libéralisation plus rapide des rassemblements, ben, c'est l'ensemble des cultes. C'est pas l'Église catholique. C'est une audioconférence entre tous les grands responsables des cultes français. Et c'est l'accord qui a été obtenu pour que le Premier ministre décide par un nouveau décret que, en fonction des injonctions du Conseil d'État, il soit possible pour les musulmans, pour la fin du Ramadan en particulier qu'ils demandaient, pour les juifs et pour les chrétiens, bah, la reprise avant l'heure et plus dans les conditions des limites de 10 personnes, alors qu'on aurait pu penser que c'était encore ça jusqu'à un plus grand déconfinement, bah, de se rassembler à nouveau dans nos églises.
Le 19 avril, vous avez souhaité consacrer... le diocèse, puis après la France. Alors, je n'ai plus exactement les dates, mais en tout cas, vous avez fait deux consécrations au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie pendant le confinement.
Voilà, le 25 mars, c'était encore le début du confinement. Comme d'autres évêques l'ont fait d'ailleurs aussi, je m'étais dit, bah, au fond, on est en péril, on est menacé. Souvent dans l'histoire de l'Église, comme vous le savez, on se consacre à la Vierge Marie, on se consacre au Sacré-Cœur, pour demander une protection spéciale qui impose évidemment un engagement de conversion personnelle. C'est dans cet esprit-là qu'on avait consacré le diocèse, si vous vous souvenez bien, en 2014, à la Pentecôte, aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Et donc j'ai voulu renouveler dans ce contexte, en disant, ben voilà, on se met davantage sous la protection du Sacré-Cœur de Communion de Marie. J'étais d'ailleurs assez content pour la petite histoire, parce qu'il y a quelques semaines, je recevais un courriel du père Guy Lepoutre, que vous connaissez, qui est un jésuite fameux, qui était longtemps à Pau, qui est maintenant à Paris le Monial, qui a 89 ans, et qui était un peu le référent du renouveau charismatique dans le diocèse, mais qui est un éminent jésuite, qui est très connu dans la France entière, et qui m'écrivait un petit courrier en me disant ben, « Je vois que dans votre région, vous avez été très épargné par le virus. Je ne peux pas ne pas faire un lien avec la consécration que vous avez faite de votre diocèse à Sacré-Cœur de Jésus avec Calvary. » Bon, j'étais content parce que ça venait
Vous le dites en souriant quand même.
Je le dis en souriant parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais je veux croire que le Seigneur, quand on se met sous sa protection, ben, peut aussi nous répondre de cette manière. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas s'il ne nous répond pas de cette manière. Voilà ce que je veux dire. Consécration de la France, pourquoi ? Parce que j'avais été très frappé de voir que les Portugais et les Espagnols, donc les présidents des conférences épiscopales portugaises et espagnoles, avaient décidé le 25 mars de consacrer leur pays au Sacré-Cœur dans le cadre de cette pandémie. Donc tous les évêques d'Espagne, tous les évêques du Portugal se sont connectés au sanctuaire de Fatima le 25 mars à 19h30, pendant que nous faisions sonner les cloches et disions le chapelet, pour cette cause. 25 conférences épiscopales d'Europe et du monde entier s'étaient associées à cet acte. Moi, j'avais suggéré qu'on aurait pu s'y associer aussi. Bon. Il semble qu'en France, on considère qu'il faut un peu mieux préparer les esprits, et c'est pourquoi ça ne s'était pas fait. Alors il y a eu une supplique, comme vous avez su, de fidèles, d'associations très diversifiées en France, qui a été adressée aux évêques de France pour le faire le dimanche de la Miséricorde, qui était le 19 avril. Ça n'a pas été l'objet d'une consécration générale, mais il était tout à fait possible qu'on le fasse de manière privée, pour la France, mais là où nous étions. Et donc je l'ai fait comme d'autres évêques, le 19 avril, pour confier notre pays, la France, où le Seigneur quand même a montré à travers son histoire qu'il était intervenu de bien des manières providentielles. Donc voilà. À la dernière assemblée plénière par visioconférence, les 8, 9 et 10 juin, les évêques de du Conseil permanent se sont rendus au Sacré-Cœur. On fait une prière qui a été publiée à la fin de cette assemblée plénière pour confier la France au Sacré-Cœur. Et le substitut de la secrétaire d'État du Vatican écrivait un message au nom du pape au début de la conférence de l'assemblée plénière, comme ça se fait à chaque fois. Et il disait « Je me réjouis que vous consacriez la France au Sacré-Cœur de Jésus dans ce climat de pandémie ». Bon, ce n'était pas une consécration en tant que telle, mais c'est quand même un acte de dédicace, de confiance dans le Sacré-Cœur en ce centième anniversaire, je crois, de la consécration de la basilique du Sacré-Cœur.
On se retrouve dans quelques instants. Nous parlerons de la lettre que Mgr Éric de Moulin-Beaufort a écrite au président de la République.
Mgr Marc Caillet, nous nous retrouvons pour cette émission avec vous sur Radio Lapourdie et Radio Présence, avec donc cette lettre envoyée le 3 juin dernier par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, au président de la République, qui avait demandé aux responsables de culte de lui écrire pour réfléchir au monde d'après, le monde d'après dont on parle maintenant souvent, sur donc cet après-Covid. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces pistes données par le président de la Conférence des évêques de France ?
Alors, je dois faire un aveu, c'est que je ne l'ai pas lu encore avec beaucoup d'attention. Comme le faisaient remarquer quelques évêques avec un peu d'humour, mais c'est gentil, hein. Nous avons appris que le président de la Conférence des évêques de France adressait une lettre au président de la République, en réponse à sa demande adressée à tous les représentants des grands cultes et des grandes religions en France, par la presse. Et on l'a reçu quelques jours après, une semaine après, par la poste. Bon, je dois remarquer, je reconnais que c'est un bel exercice, que Mgr de Moulin-Beaufort est quelqu'un qui a une vraie capacité de réflexion, hein, et de distance réfléchie par rapport aux événements, qui a une très bonne plume, et qui a donc certainement eu raison, mais en son nom personnel, comme il le répète au début de la lettre, de répondre à cette invitation du président de la République. Personnellement, je me demande quand même, et c'est, je le fais de manière très libre et sans aucune acrimonie, hein, si ce n'est pas un peu tôt, parce que nous sommes à peine sortis du déconfinement, et je ne suis pas sûr qu'on ait encore mesuré toutes les conséquences qui vont s'égrener dans les semaines et les mois qui viennent, et qui seront sans doute assez dramatiques. Je ne cite qu'un passage qui m'a montré que c'était peut-être un peu prématuré. Lorsqu'il écrit « J'ajoute en préambule un constat, nos sociétés sont restées en paix et l'humanité entière aussi », ce qui n'est quand même pas tout à fait vrai, parce que pendant que nous avions les yeux braqués, nous, sur le nombre de morts qu'on égrenait aussi de manière terrifiante tous les soirs sur nos petits écrans, il y avait quand même toujours des opérations extérieures contre les terroristes au Mali et ailleurs, qui coûtaient la vie d'ailleurs à certains de nos soldats français. Il ajoute peut-être une guerre commerciale et économique se prépare-t-elle, pas seulement peut-être mais sûrement, mais pour le moment aucune société n'a sombré dans la violence et aucun pays n'a profité du confinement généralisé pour s'emparer par la force d'une portion de territoire. Aucune société n'a sombré dans la violence, et on est bien obligé de voir que cet état de violence qui règne aujourd'hui dans notre société française, ou comme aux États-Unis ou comme ailleurs, est quand même lié à ce déconfinement, et qui montre bien qu'il y a des situations de violence et d'agressivité qui ont été contenues à travers le confinement, et qui s'expriment de manière encore plus forte qu'auparavant, vous voyez. Donc c'est quand même...
Il y a aussi eu beaucoup de solidarité quand même, on peut le souligner.
J'entends bien. Non, mais c'est pas parce qu'il y a de la solidarité qu'il n'y a pas un état de violence. Moi, je vois aujourd'hui qu'il y a des manifestations et une crise sociale qui ne s'est pas interrompue avec la crise des Gilets jaunes qui n'a jamais été réglée, qui veut dire qu'il y a un fond de colère au sein de nos sociétés, qui est lié quand même à des fractures sociales, liées aussi à un système économique que le pape François dénonce régulièrement, hein, ce capitalisme financier qui est certainement une des causes de la crise économique que nous allons vivre, mais qui sera mise sous le coup, sur le compte d'une crise généralisée du coronavirus.
Est-ce que c'est pas être communiste de dire ce que vous venez de
dire ?
Pas
du tout, pas du tout. C'est être chrétien. C'est être féru de l'Église. Donc,
c'est un reproche qu'on fait souvent au pape.
Oui, ah ben oui, oui, c'est ça. Oui, ben non, mais justement, lui, il est dans le droit fil de la
société. C'est trop communiste par rapport à cette
question. Parce qu'on pense que ceux qui combattent le capitalisme financier sauvage sont des communistes. Ben non. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il encore des communistes ? Oui, peut-être en Chine, mais ils sont capitalistes. Vous voyez bien que ce n'est pas l'idéologie communiste qui est derrière ça. La Chine est un des pays les plus capitalistes au monde, et pourtant, politiquement, elle est régie par une dictature communiste qui supprime toutes les libertés publiques. Donc, ce n'est pas être communiste, au contraire, c'est être défenseur de la dignité de la personne humaine et de l'ordre social juste, hein, qui est défendu par la doctrine sociale de l'Église. L'Église n'a pas attendu le communisme ou le socialisme, comme on disait à l'époque, pour combattre le capitalisme financier sauvage qui conduit à ces fractures sociales que nous connaissons. Et on n'est pas sorti de la crise des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, ce sont les soignants qu'on a applaudis et qu'on a loués tant et plus pendant tout le temps, alors qu'ils faisaient leur boulot, comme ils le disent eux-mêmes. Bah, on a fait notre boulot, mais avec un manque de moyens. Ce qu'on veut, ce n'est pas des applaudissements, disait, comme vous l'avez vu sans doute pendant ce temps du confinement. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est de l'émotion. Mais ça ne nous donne pas les moyens. Et ça fait que si on est aujourd'hui complètement à flux tendu, c'est parce qu'on n'a pas les moyens et qu'on réclame depuis plus d'un an. Vous voyez, donc je pense que la société française n'est pas sortie de ce confinement. Les conséquences qui sont devant nous sont peut-être pires que celles de la crise sanitaire que nous avons connue. Qui finalement, si on regarde bien l'échelle de notre population et en comparaison à bien d'autres épidémies, n'a pas été aussi meurtrière qu'on veut bien le dire. Et quand on dit que les États-Unis, le Brésil, c'est terrible, ils ont, ben oui, mais proportionnellement à leur population, c'est moins que nous. Donc il faut quand même raison garder et être bon dans la vérité, quoi.
Vous avez parlé de la violence, donc qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe aux États-Unis par rapport à cette colère antiraciste et qui a des répercussions finalement ici, chez nous aussi?
Alors ce qui s'est passé aux États-Unis est dans le droit fil d'une mentalité aussi qui est bien ancienne chez eux, qui est celle de la ségrégation raciale, même s'ils en sont sortis, mais pas institutionnellement en tout cas, dans un passé assez récent encore. Donc il y a quelque chose qui est très, très prégnant encore dans la société, dans les conscients collectifs, que c'est vrai que la minorité afro-américaine est encore bien stigmatisée aux États-Unis. Et donc ça a été un embrasement avec cette goutte qui a fait déborder le vase de ce George Floyd qui a été lâchement assassiné, on peut dire, par un policier. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les policiers sont racistes et ça ne veut pas dire que tous les policiers sont violents. Alors ensuite, le transposer en France, on n'est pas du tout dans le même contexte. On ne peut pas parler de la France comme d'un pays raciste. Qu'il y ait des gens racistes en France, bah oui, il y en a dans toutes les corporations et il y en a souvent dans la police. Mais que ça donne lieu à une violence anti-raciste et anti-policière en France avec les exactions que l'on connaît et les outrances que l'on connaît, sans quand même un peu l'instrumentalisation et la manipulation par des groupuscules d'extrême gauche qui, comme vous l'aurez remarqué, dans toutes les manifestations sont présents. C'était vrai pour les Gilets jaunes, c'est vrai pour les soignants qui pacifiquement manifestent dans la rue pour demander enfin que leurs revendications soient entendues à la hauteur des applaudissements dont ils ont été bénéficiaires pendant tout ce temps de crise sanitaire. Et comme par hasard, des black blocs, des ultra-gauchistes s'insèrent pour tout casser. Et d'ailleurs, ils soutiennent tellement peu la cause qu'ils s'en prennent même à une voiture d'handicapés, ils s'en prennent même à un bus de tourisme, sans aucune... Et puis, ils cassent du flic. On se demande d'ailleurs pourquoi ces gens-là, impunément, peuvent faire leur loi dans les rues, de manière aussi violente. Est-ce que ça sert aussi, je ne dis pas qu'ils sont intentionnellement placés là, mais est-ce que ça ne sert pas aussi une manœuvre de discrédit des revendications sociales aujourd'hui, En tout cas, ça dessert la cause de ceux qui, justement, demandent que les choses, et puis sont conduits forcément, à force de ne pas être entendus, à la violence.
Dans l'actualité, c'est aussi le projet de loi bioéthique qui est de retour donc à l'Assemblée nationale le 6 juillet, un sujet qui vous tient à cœur, Monseigneur.
Oui, bah, qui me tient à cœur, qui pense qu'il nous tient à cœur à tous. On est enfin, là aussi, excusez-moi d'être aussi négatif, mais tant pis, je me lâche. On est là un petit peu étonné que la première urgence que le gouvernement décide de traiter à l'Assemblée nationale, en catimini une fois de plus, en fin de déconfinement et en entrée dans ce temps estival, on pense que le plus urgent, c'est la deuxième lecture à l'Assemblée nationale de ce projet de bioéthique qui a causé quand même des divisions, qui cause un mal-être dans la société. Nous savons aussi qu'il est attentatoire à la dignité de la personne humaine, de l'enfant, qui a le droit à avoir un père et une mère. Et 7 Français sur 10, selon un sondage de l'IFOP, dont toute la presse, toute sensibilité confondue, s'est fait l'écho, disent qu'il faudrait reporter la discussion de ce projet. 1% seulement des Français, ça arrive pour 1% des Français comme une priorité. Je pense que la crise économique, la crise sociale, le problème de la violence, de l'immigration qui n'est pas réglée dans notre pays, semble intéresser davantage. La question des retraites semble intéresser davantage comme priorité les Français que cette loi qui, comme par hasard, en toute urgence, va être... Je me dis que la France est quand même prise en otage aujourd'hui par des minorités agissantes et agressives. C'est vrai quand on voit la mentalité anti-raciste violente aujourd'hui et anti-policière, même si la police a reçu sans doute des ordres d'un gouvernement qui les a d'ailleurs lâchés, mais c'est quand même le gouvernement qui dirige les policiers. C'est pas, enfin, je pense que c'est pas de leur propre initiative qu'ils font ce qu'ils font. Voilà, moi je dis on marche sur la tête.
Nous nous retrouvons dans quelques instants, nous parlerons des événements diocésains à venir. Nous retrouvons notre évêque Monseigneur Marc Caillé. Alors très vite, nous allons avoir des temps forts dans la vie de l'église diocésaine avec les ordinations. Des ordinations, on peut dire que ce sera des diacres et des prêtres du confinement.
Oui. Ben oui, parce que comme on le sait, notre vie... paroissiale et diocésaine a été mise à mal pendant ce temps du confinement. On a été obligé évidemment de reporter beaucoup d'événements importants pour les familles, pour les enfants, pour les paroisses de cette fin d'année, en général avec les premières communions, les professions de foi. Alors je sais qu'il y a quand même des paroisses qui les ont célébrées quand ils ont des petits effectifs, hein. Mais les confirmations, ben voilà. Alors les confirmations, en plus cette année, il y avait un peu plus de confirmants parce qu'il y a quand même pas mal de paroisses ou d'établissements scolaires qui ont demandé qu'on confirme les enfants en CM1, CM2. Et bon, bah, tout ça a été reporté, alors ce qui va faire une rentrée très chaude.
Donc ça sera reporté à la rentrée scolaire.
Voilà, diocèse en fête aussi.
Alors, diocèse en fête, bah, c'était évident qu'on ne pouvait pas le tenir cette année. Donc on le reportera l'année prochaine, mais à la même période, pour le coup.
Donc Pentecôte.
Donc veille de Pentecôte. J'ai déjà annoncé aux prêtres qu'en faisant leur calendrier, ils n'oublient pas que ce samedi, qui sera le 22 mai, je crois, veille de Pentecôte sera réservée à cet événement diocèse en fête que nous essayons de préparer comme ça tranquillement pendant l'année.
Les confirmations d'adultes aussi ?
Les confirmations d'adultes, alors moi j'ai donné délégation aux curés de le faire dans leur paroisse. Donc en général,
certains
l'ont fait déjà. Ils l'ont fait déjà, ouais, comme les baptêmes des adultes qui avaient été différés. Donc ça a été quand même un peu traumatisant pour les paroisses qui comptent beaucoup sur ces grands rassemblements sacramentels et liturgiques de la fin de l'année et qui sont des moments de grands rassemblements, de cohésion, de communion, de joie. Bon. Alors, ben, je me suis dit, pour les ordinations, on ne va pas faire pareil. Hein. On est à la fin du mois de juin. Sans doute que ce sera dans un format un peu plus réduit que d'habitude. Il n'y aura pas un concours de peuple aussi important, parce qu'on est tenu à des mesures de distanciation sociale qui nous obligent à restreindre...
Ça veut dire que tout le monde ne pourra pas entrer dans la cathédrale.
Tout le monde ne pourra pas entrer, mais ceci dit, la cathédrale, on peut quand même avoir 400 places assises, sachant qu'on va rajouter 150 chaises, donc avec un mètre de distance entre chaque. Donc je pense qu'on peut quand même à peu près avoir 400 personnes. Mais bon, sur une capacité de 800 à 1000 personnes, c'est sûr que c'est beaucoup moins. Ça veut dire que les ordinants auront... Ben, la priorité sera donnée à leurs invités, famille et invités de leur paroisse ou autre, mais qui ne seront pas des milliers et des cents, hein, donc il restera quand même un peu de place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu répartir les différentes ordinations, donc en 24 heures, ça va être une...
Le marathon des ordinations.
Le marathon des ordinations, voilà. On commencera par les deux diacres vendredi 26 ce après-midi à 16h30.
Oh, Alexandre Blodot.
Alexandre Blodot et Joseph Nguyen. Et puis le lendemain matin 27, ce sont les trois, j'allais dire diocésains, ils sont tous diocésains, mais Alexandre Méret, François-Régis Jeannot et Baptiste Pochulu.
À 10h à la cathédrale.
À 10h à la cathédrale. Et puis le soir à 18h à la cathédrale, ce sera André Anasuato, qui sera aussi diocésain, et qui sera aussi nommé dans le diocèse, mais qui lui vient du séminaire Redemptoris Mater, donc du chemin néo-catéchuménal. Voilà. Donc ça permettra à chacun d'avoir quand même un nombre suffisant d'invités.
Et ce sera filmé aussi.
Alors pour le vendredi soir et samedi matin, ce sera donc...
filmé et retransmis sur notre antenne.
Diffusé en direct sur notre antenne, ainsi que diffusé par Radio Lapourdi en direct.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'évêques diocésains en France qui vont ordonner 4 prêtres cette année ?
J'en sais rien. Je ne veux pas m'en targuer trop et je ne le dis pas trop, mais je crois qu'on est quand même très heureux d'avoir 4 prêtres, c'est vrai. Il y a des diocèses d'ailleurs qui ont reporté les ordinations à l'automne, comme à Toulon par exemple. Mais les grands diocèses, peut-être quand même qu'ils ont 4 prêtres.
Le séminaire, la suite, comment...
La suite du séminaire, c'est toujours modeste, hein, mais ça se maintient bien. Il y avait 5 propédeutes cette année, il y en a 3 qui vont entrer en première année, donc c'est plutôt positif. Parce que c'est une aide discernement et que c'est pas forcé que l'année se solde automatiquement par une entrée au séminaire. Il y a plusieurs jeunes qui frappent à la porte actuellement du séminaire pour la propédeutique l'an prochain. Donc voilà, ça reste des petits nombres, mais je pense que la comité du séminaire a bien vécu ce temps du confinement. Comme vous savez, ils sont restés confinés au séminaire. Il y a d'autres séminaires qui ont fermé, d'autres qui sont restés ouverts pendant le temps du confinement, comme chez nous. Et ça a été une expérience de vie fraternelle, parfois plus difficile parce qu'ils étaient toujours entre eux et avec aucune sortie. Mais ils ont pris plus en main la vie de la maison, c'est eux qui ont assuré la cuisine pendant tout ce temps-là, parce que la cuisinière a suspendu ses activités pour cause de crise sanitaire. Et donc, je pense que ça a été vécu très positivement. Et puis j'entends des séminaristes me dire, ce temps de confinement avec cette... vie fraternelle plus resserrée m'a appris beaucoup de choses de moi-même. Ouais, c'est très important parce que la formation, c'est quoi ? Se connaître soi-même pour mieux connaître ses talents, ses limites et mieux travailler aussi pour se perfectionner, si je puis dire, et répondre à sa vocation.
L'autre temps fort dans notre diocèse, c'est le pèlerinage diocésain à Lourdes du mois de septembre. Est-ce qu'il va avoir lieu ? Sous quelle forme ?
Alors donc, ils ont décidé, en tout cas, puisqu'on n'était pas encore, on ne sait pas encore d'ailleurs à quelle sauce on sera mangé à la rentrée, mais comme ça demande quand même une grosse organisation logistique, d'habitude, je vous rappelle que c'est quand même 460 malades, dont beaucoup sont grabataires. Hein. Finalement, ils ont décidé, cette année, en lien avec les structures des sanctuaires, de restreindre le pèlerinage de l'âge bébé à la journée du 12, avec essentiellement les hospitaliers et quelques malades valides. Sachant qu'étant donné les structures de l'accueil Notre-Dame, il pourrait y avoir qu'une personne par chambre, là où il y en a 6, parce que d'abord il n'y a qu'une seule salle de bain. Quoi. Bon. Et puis le dimanche, on ouvrira ça évidemment de manière large à tous les diocésains, sachant qu'en général, la journée diocésaine, on est 4 à 5 000, que pour l'instant, sans doute jusqu'au 10 juillet, je crois, ou 13 juillet, c'est moins de 5 000 les rassemblements, mais après ça va quand même être modulé autrement.
Donc 12 et 13 septembre.
12 et 13 septembre, voilà.
La formation diocésaine du parcours Cléophas a-t-elle pu continuer pendant le confinement ?
Eh bien oui, figurez-vous. Elle a continué par visioconférence. Ils étaient tous, quasiment tous à l'appel et ils ont passé la journée sur Zoom pour participer à cette journée de formation. Et donc je crois que ça s'est bien passé.
On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais vous-même, vous avez été en assemblée plénière des évêques via...
Toutes les semaines, on faisait un conseil épiscopal déjà dans le diocèse par visioconférence, par Zoom, au départ c'était par Teams, enfin qu'importe. Et puis toutes les assemblées plénières, il y a eu des assemblées plénières brèves, qui ont eu lieu par visioconférence au moment de la question de
la reprise des
cultes. Et puis il y a eu l'assemblée plénière de mars qui avait été annulée à Lourdes et donc qui a été reprise les 8, 9 et 10 juin. Donc on aurait dû se rassembler à Paris, puis finalement les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Et donc on l'a fait par visioconférence. Alors 2h le matin, 2h l'après-midi. J'ai remarqué d'ailleurs que je suis assez rompu maintenant à ce genre d'exercice, alors que ça m'était complètement étranger jusque-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais les rencontres par visioconférence, quand j'ai fait aussi, par exemple, avec des chefs d'établissement que nous recrutions pour l'année prochaine, etc., c'est un peu fastidieux, quoi.
Monseigneur Raillet, est-ce qu'il y a des projets pour la rentrée pastorale ?
Vous voyez, je disais que l'un des fruits, peut-être, du confinement, c'est que pendant 2 mois, personnellement, je n'avais plus d'agenda. Je n'avais pas de projet. Et comme nous tous, nous avions du mal à nous projeter dans l'avenir, parce qu'on ne savait pas très bien quand est-ce que toute cette affaire s'arrêterait. Donc on a appris peut-être de cette manière à davantage vivre au jour le jour. Et je dirais que, parce qu'on a aussi peut-être davantage prié pendant ce temps de confinement, qu'on s'est peut-être davantage mis à l'écoute des imprévus de Dieu, comme on le chante dans un cantique, je crois, ou dans une hymne de l'Office, Liturgie des heures, et donc davantage ouvert à la Providence et aux impulsions, aux inspirations de l'Esprit-Saint. Je me dis, tiens, finalement, c'est peut-être une manière de se dire, peut-être qu'on veut trop planifier, on veut trop programmer, on est toujours très attentif et inquiet de savoir si tout va être bien planifié. Il y a peut-être des peurs derrière, d'ailleurs, qu'il faut exorciser. Et donc je me dis, pour l'instant, à part la reprise de la vie ordinaire de notre diocèse, de nos paroisses, il n'y a pas pour l'instant de grands projets.
Ce qui est sûr, c'est qu'une vague de précarité va advenir. Tout le monde en parle. Je sais que vous avez envoyé un courrier au Secours catholique pour les remercier de ce qu'ils ont fait pendant le confinement, parce qu'ils ont eu...
Saint-Paul aussi, et Malte, enfin tous ceux qui sont restés mobilisés pendant ce temps-là, dont on n'a pas beaucoup parlé quand même.
Peut-être que là, les paroisses auront une carte à jouer au niveau d'évangélisation, en accompagnant justement toutes ces personnes en situation de difficulté financière.
Ça, c'est sûr qu'il faudra qu'on s'organise et qu'on se mobilise davantage face à cette période de précarité qui s'annonce quand même assez, assez rude. Je pense aussi que l'année Laudato Si que le pape François a lancée, avec des projets ici ou là, et d'ailleurs il y a un projet que je vais sans doute bénir et inaugurer le 28 juin prochain à Sainte-Thérèse de Pau, où il y a tout un projet de permaculture qui pourrait être aussi ouvert à la réinsertion par le travail de personnes handicapées et aussi de personnes réfugiées. Donc il y a une affaire qui illustre ce que dit le pape François dans son encyclique Laudato Si à l'envie. Tout est lié, quoi. Voilà.
Beau projet pour l'an prochain. Merci beaucoup, Monseigneur Raillet. Merci à tous nos auditeurs de Radio Lapourdie et Radio Présence, et à très bientôt.
Et très bon été à tous.